En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors, que disent ces deux dernières phrases? Elles sont regroupées en fait. Je vous les lis. Les objets attirants rencontrés sont comme des arcs-en-ciel en été. Bien qu'ils semblent être si beaux, ne pas les considérer comme réels et abandonner attachement et désir ardent est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Toutes les souffrances variées sont comme la mort de son enfant en rêve. Prendre pour réellement existantes des apparences illusoires, que de peines inutiles. Confrontés à des circonstances adverses, les voir comme une illusion et par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Je les relis. Les objets attirants rencontrés sont comme des arcs-en-ciel en été. Bien qu'ils semblent être si beaux, ne pas les considérer comme réels et abandonner attachement et désir ardent est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Toutes les souffrances variées sont comme la mort de son enfant en rêve. Prendre pour réellement existantes des apparences illusoires, que de peines inutiles. Confrontés à des circonstances adverses, les voir comme une illusion est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Il y a dans beaucoup de textes hein, où on prend l'exemple de l'arc-en-ciel pour expliquer l'illusion ou pour expliquer la vacuité. L'arc-en-ciel, on sait très bien que ce n'est pas existant, qu'on ne peut pas le toucher, qu'on ne peut pas le localiser de façon précise, etc. Et pourtant, il apparaît. Il faut considérer les phénomènes de cette même façon, les pensées de cette même façon, les sensations de cette même façon. Pensez souvent à l'exemple de l'arc-en-ciel parce que quand on dit que les choses sont vides d'existence propre, souvent, on associe à cela le fait qu'elles n'ont pas d'existence du tout. Et ça, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'on puisse faire dans le dharma. C'est tomber dans le nihilisme, dans le néant, et considérer la vacuité comme étant synonyme de néant. Et l'exemple de l'arc-en-ciel est bon, parce qu'on sait tous que ce n'est pas rien de matériel, que c'est dû à des tas de conditions atmosphériques et compagnie, mais il y a l'apparence, et tout le monde se réjouit quand on voit un arc-en-ciel. Bien que ce ne soit pas existant, on se réjouit des couleurs, de la forme de l'arc-en-ciel. Donc là, on peut comprendre aussi que les choses agréables qui se produisent, on peut les apprécier en tant que sensations agréables. Mais il n'y a pas d'attachement à développer par rapport à ces phénomènes agréables, parce qu'il faut les voir comme étant de la nature de la vacuité. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. À quoi vous accrochez-vous quand vous vous accrochez à une pensée, par exemple? Cherchez bien et vous verrez que vous ne vous accrochez à rien, quoi. Et à une sensation. Vous accrochez à votre corps qui a mal? Non, vous vous accrochez à la sensation douloureuse. Vous vous accrochez à la sensation agréable. C'est l'attachement à la sensation agréable ou à quelque chose que vous trouvez beau qui fait naître c'est l'attachement qui fait naître la souffrance. Et ça, il faut être convaincu que l'attachement la conséquence immédiate de l'attachement, c'est la souffrance. Quand le Bouddha parle de la libération de la souffrance, eh ben, il va falloir vous pencher sur comment vous libérer de l'attachement. On est tous d'accord pour se libérer de l'aversion, de la colère et de tout cela. Mais se libérer de l'attachement, ça, c'est quand même moins facile. Et il va falloir travailler là-dessus quand même. Parce qu'à partir du moment où vous avez réellement, profondément la motivation de vous libérer de la souffrance, il faut se libérer de toutes les formes de souffrance, de toutes les causes de la souffrance. Pas seulement de celles qui nous sont évidentes, et puis d'autres plus subtiles ou plus agréables, on va dire, eh bien on va les garder, quoi. Se libérer de la souffrance, c'est se libérer de toute forme de souffrance, donc de toutes les formes de causes de la souffrance. Ne travaillez pas aujourd'hui sur l'attachement que vous avez pour vos proches, etc. Il y a d'autres formes et de multiples autres formes d'attachement sur lesquelles on peut travailler à longueur de journée, quoi. Non seulement pour les objets, pour ce que nous avons, mais pour où l'on vit. Il y en a qui sont attachés de vivre dans ce genre de pays en Europe. Il y en a qui sont attachés à leur job. Il y en a qui sont attachés aux personnages qu'ils sont, à leur façon de vivre, aux valeurs qui, pour elles, sont vues comme plutôt absolues, etc. Commencez à travailler là-dessus. Mais alors, j'allais dire, pour cela, il faut avoir vraiment la motivation de se libérer de la souffrance. Et ça, c'est l'objectif quand même du dharma. On pratique le dharma. Je pense même qu'on devrait développer cette compréhension avant de devenir bouddhiste. C'est parce qu'on veut se libérer de la souffrance qu'on devient bouddhiste, qu'on décide de suivre le chemin du Bouddha. Parce que ce chemin-là n'a qu'un seul objectif, c'est la libération de la souffrance. Et ça, c'est l'objectif unique du dharma. On ne pratique pas le dharma pour devenir un peu plus sympa, quoi. Ou pour pratiquer un peu plus la bodhicitta. Ce n'est pas suffisant. Et vous avez d'autres voies, spirituelles ou non, eh bien, qui vous permettent d'être un peu plus sympa dans la société et de développer vos qualités. L'objectif, le seul objectif de la pratique du dharma, c'est se libérer de la souffrance. Est-ce qu'on en a assez de la souffrance? Est-ce qu'on veut vraiment se libérer de la souffrance, quoi? Voilà. Et alors, il faut donc chercher en soi, eh bien, ce qui nous fait souffrir. Être très objectif, avoir une vue, une recherche très objective de quoi je souffre aujourd'hui. Est-ce que je suis attaché? Et est-ce que cet attachement, eh bien, est cause de souffrance pour moi, quoi? Il n'y a pas à porter un jugement là-dessus. Il y a juste à constater, quoi. Je souffre parce que je suis attaché. Or, si je pratique le dharma, c'est pour ne plus souffrir. Donc, il faut que je travaille sur l'attachement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Mais il faut s'y atteler, quoi. Mais alors, le texte nous dit, bien qu'ils semblent si beaux, ne pas les considérer comme réels et abandonner attachement et désir ardent, c'est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Donc, en tant que bodhisattva, ben, nous sommes obligés de travailler là-dessus, puisque un bodhisattva n'a qu'un objectif à sa pratique de bodhisattva, c'est se libérer lui et libérer tous les êtres de la souffrance. Vous êtes tous des bodhisattvas, vous êtes sûrs? À partir du moment où vous prenez refuge, alors ça pour Hélène ce soir, à partir du moment où vous prenez refuge dans le Mahayana, dans le grand véhicule, vous êtes d'emblée un bodhisattva. Alors, voilà, on va dire soirée à responsabilité. Toutes les souffrances variées sont comme la mort de son enfant en rêve. Prendre pour réellement existantes des apparences illusoires, que de peine inutile. Alors les apparences illusoires, hein, les pensées par exemple, on est tous d'accord pour dire que les pensées sont illusoires? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'existence propre, qu'elles ne font que passer, elles s'élèvent, elles demeurent un certain moment, et puis elles disparaissent. Vous êtes tous d'accord pour ça? Ben oui, mais vous dites, ben oui, avec une telle évidence. Alors pourquoi vous les saisissez, si c'est si évident que ça? Pourquoi est-ce que vous ne les laissez pas passer? Ben, je dis vous, nous, hein, je suis dans le lot. Hein.
Par habitude.
Eh oui. Voilà, ouais. Voilà. Il n'y a rien de plus facile, on en a parlé je crois le mois dernier, il n'y a rien de plus facile que les instructions pour demeurer dans la nature de l'esprit. Il n'y a rien de plus simple. Hein, ce que nous disait Rinpoche au Sikkim, franchement c'était tous les jours la même chose, et c'était, mais il n'y avait rien de complexe. Quoi. Donc il n'y a rien de plus simple que de demeurer dans la nature de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Comme vous avez dit, à cause des tendances, à cause des habitudes, à cause des empreintes karmiques, donc à cause des voiles, et surtout à cause des tendances. Nous avons toujours la tendance à réagir d'une même façon face à telle situation semblable que l'on rencontre. Et ça, c'est une tendance, c'est une habitude. Une habitude qui est née, eh bien, il y a X vies, hein, et que pendant toutes ces états d'existence, nous avons renforcé, et maintenant, c'est devenu automatique. Eh bien, il faut prendre conscience de ce mode de fonctionnement-là, vraiment l'analyser de façon à le voir, voir comment ce mode de fonctionnement me cause de la souffrance, et me donne l'occasion de créer de la souffrance aussi pour autrui. Et on en vient toujours à la même conclusion. Ça, je ne veux plus de cette souffrance, donc je ne veux plus de ce mode de fonctionnement. Mais alors, ce n'est pas quelque chose qu'il faut décider quand on va réaliser l'éveil. Il faut le décider pour réaliser l'éveil. C'est le moyen de réaliser l'éveil. Et il faut le décider là, dès maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 8 jours. Si on se dit, mais je ferai ça, tiens, mon retour de vacances, j'ai besoin de vacances, etc. On n'a rien compris, ni à la précieuse existence humaine, ni à l'impermanence. Il y en a combien qui sont sur les routes et qui vont mourir ce soir sur les routes? Et demain, ça peut être nous, on n'en sait rien du tout. C'est ça l'impermanence. C'est-à-dire que si nous avons les conditions pour le faire, pour prendre cette décision et pour commencer ce travail-là maintenant, alors nous devons profiter de ces conditions, parce qu'elles sont nombreuses, on les sait précieuses, rares, et qu'on n'a donc pas de temps à perdre, on ne peut pas remettre cette décision à plus tard, il faut prendre là maintenant cette décision. J'en ai marre de la souffrance, je n'en veux plus. Quoi. C'est pas quelque chose quand même si extraordinaire. Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous avez envie qu'il souffre?
En principe, non.
En principe, non. C'est évident, c'est assez fort dans notre esprit. Quoi. Voilà. Alors, si c'est trop abstrait de développer cette motivation pour tous les êtres, mais commencez par la développer pour vos proches. Commencez à développer cette compréhension pour vos proches, dans le sens, en travaillant sur votre propre esprit, d'être moins cause de souffrance pour vos proches. Et petit à petit, eh bien, de leur montrer que la libération est possible. Et ce, par votre expérience, non pas parce que c'est dit dans tel bouquin, mais par votre expérience. Et on en revient toujours à cette saisie, quoi. Faites l'expérience, vraiment, et peut-être, je souhaite que vous l'avez déjà faite, mais faites vraiment l'expérience encore et encore, que c'est la saisie qui est le problème de la souffrance, et que ce ne sont pas les apparences elles-mêmes. Nous devons être sûrs de ça. J'étais à Berlin le week-end dernier, et à Berlin, je leur ai dit, hein, je ne connais pas de centre aussi indiscipliné que le centre Bodhisharya Berlin. Ah mais pour des Allemands, c'est vraiment... C'est incroyable ce centre. Il y a, pas le week-end dernier, mais il y a une fois, Il y avait un couple. Lui, pendant tout l'enseignement, il était couché la tête sur les cuisses de sa bonne femme. Pendant tout l'enseignement. Et le mieux, c'est qu'il y avait une personne pendant tout l'enseignement qui était assise au fond. Elle a tricoté pendant tout l'enseignement.
C'est très respectueux.
Bref, il y a plein de... Ça rentre, ça sort, ça boit... ça boit de l'eau, ça boit du thé, mais n'importe quoi.
Mais ils ont peut-être des autres règles. Non, il n'y a pas de
droit. Non. Et puis, de toute façon, peu importe s'il y a des règles dans tel ou tel pays, il y a des règles concernant le dharma. Point. Alors, s'ils suivent le dharma, eh bien, ma foi, ils doivent suivre les règles. Alors, dimanche matin, on fait toute une matinée de méditation. Alors, tout le monde arrive avec sa tasse de thé, avec sa bouteille, ses petits biscuits, son téléphone. Hein? Ah ouais. Oui, parce que ça téléphone pendant les sessions aussi. Et on se met en méditation, et au bout de 2 minutes, j'en vois un qui commence à boire, l'autre qui prend son thé, etc. Donc, je leur disais, don't move, don't move. Alors, un peu, pourquoi ne pas bouger? Alors, bon, ils ont respecté, ils n'ont pas bougé. Ça a été le tollé aux 5 minutes de pause, quoi. Mais pourquoi ne pas bouger? Moi, j'ai soif, il faut que je boive. Comme si ne pas boire pendant un quart d'heure, la personne va complètement se déshydrater et être hospitalisée. Enfin, voilà, catastrophe, quoi. Alors, je leur dis, mais si vous réagissez de cette façon-là, à la moindre sensation pendant votre pratique, comment pouvez-vous espérer qu'un jour, dans une situation où il y aura une sensation qu'il vous faudra affronter, quoi, et pour laquelle rien ne la solutionnera, ne la fera disparaître? Mais comment va être votre esprit à ce moment-là, si pendant que tout va bien, au moins de gratouillis, vous êtes là comme ça, oh, puis maintenant j'ai soif, alors je bois, mais enfin bon, je médite en même temps, etc., quoi. Je leur dis, c'est ça la discipline du dharma. C'est comment? 25 à peu près. Non.
C'est pas 150, quoi.
Non. Mais je leur dis, c'est ça l'entraînement de la méditation. C'est en fait voir, être conscient de ce qui se passe dans notre esprit et comment réagir à ce qui se passe. Rinpoche Rinpoche définit souvent la méditation comme étant l'apprentissage à être conscient de nos réactions et comment modifier nos réactions face à telle ou telle situation. Il faut vraiment comprendre ça. Quand le dharma propose la libération de la souffrance de la maladie, de la souffrance de la vieillesse, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que ça veut dire que quand on médite, on ne devient pas vieux et on n'est jamais malade? Mais le Dalai Lama, il a 83 ans, il a de l'arthrose au genou, il peut bientôt plus marcher. Il doit souffrir de l'arthrose, quoi, tout Dalai Lama qu'il est. Et ça, c'est l'inconfort, on va dire, de la vieillesse. Et quand on est malade, ben, on est malade, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, libération de la vieillesse et libération de la maladie? Ça veut dire la libération de la réaction ordinaire qu'on a, en général, face à ces situations-là. Et observer, aujourd'hui, comment on réagit, comment vit notre esprit, la maladie, par exemple, quand on est malade, ou si on est âgé. Comment est-ce qu'on réagit à ça? Et en général, on saisit. Et plus on saisit, plus on pense à notre jeunesse. Avec regret, nostalgie. Allez dans les maisons de retraite. Allez dans les maisons de retraite et voyez de quoi parlent les gens, quoi. C'est une grande souffrance, hein. Allez dans les hôpitaux et voyez ce qui, par rapport à la maladie, comment les gens réagissent, quoi. Et nous serons confrontés à la vieillesse si on vieillit, nous serons confrontés à la maladie. Mais alors c'est où notre pratique? On en fait quoi de notre pratique par rapport à ces situations? Ce sont des sensations, ce sont des perceptions, ce sont des pensées, ce sont des facteurs mentaux. C'est chiné, ça. C'est le calme mental qui nous permet, eh bien, de ne pas saisir. Et bien sûr que le calme mental que chiné n'est pas suffisant pour réaliser l'éveil. Il faut l'actangle, il faut la vision pénétrante, il faut la réalisation du non-soi des phénomènes et du non-soi de l'individu. Shiné est indispensable pour passer à l'actong, mais Shiné n'est pas suffisant pour réaliser l'éveil. Ça nous apporte un sérieux confort quand même, hein, puisque s'il n'y a plus de saisie, déjà, il y a quand même plus de souffrance. Mais la libération, elle vient de la compréhension en termes d'expérience, de réalisation du non-soi des phénomènes et du non-soi de l'individu. Et il faut, je pense, au bout d'un an, et vous êtes pratiquant depuis plus d'un an maintenant, hein, donc il faut que l'actong, oui, presque, il faut que l'actong vienne tout de suite après. Parce que plus on comprend le non-soi des phénomènes, plus la saisie que l'on opère sur les phénomènes a tendance à se relâcher. Faites cette expérience. Moi, je pense souvent... alors là, justement, utilisez votre affectif. Vous qui avez des enfants, quand votre enfant vient vous voir, qui est grand, hein, il vit sa vie, et il vient vous voir, qu'est-ce que vous ressentez au moment de son départ? Moi, je pense à ça, parce que chaque fois que je vois ma mère, je sens que ça coince chez elle quand je m'en vais, quoi. Ce qui est logique, vous me direz. Voilà. Mais donc, à vous, ça vous arrive, ce genre d'expérience. À ce moment-là, observez cet état de tristesse ou de peine que vous pouvez ressentir dans votre esprit. Vous l'observez et vous dites, ok, il est là. Mais vous ne le saisissez plus. C'est-à-dire que vous le regardez, mais vous restez là. Il est là et vous le regardez, vous restez là. En un instant, en une seconde, c'est la totale libération de cette peine. C'est immédiat. Il y a... Alors que la sensation est toujours là, que le facteur mental est toujours là, mais votre esprit retrouve immédiatement son espace, immédiatement sa détente et son bien-être. Alors que le facteur mental est encore là. Mais vous vivez à ce moment-là la libération de ce facteur mental. Il faut absolument que vous fassiez cette expérience-là. Parce que connaissant cette expérience, eh bien, vous savez que c'est possible, et pour toutes les situations. Et que c'est l'entraînement qui nous permettra d'avoir cette expérience dans des situations extrêmement puissantes où l'affect, où l'émotionnel est extrêmement puissant. Sans cet entraînement, quand on sera dans une situation émotionnelle très puissante, on aura beau se dire qu'il faut lâcher, rien ne lâchera, rien ne se passera. Parce que ça ne peut pas se passer simplement par décision du cerveau. Ça ne peut se passer que par l'entraînement de l'esprit. Et que ça devienne automatique, automatique, automatique. Et pour que ça devienne automatique, il faut absolument que vous fassiez cet exercice sur tout ce que vous rencontrez au cours de votre journée. Si vous conduisez votre voiture et qu'il y a une situation qui vous déplaît, observez cet aspect déplaisant qui s'élève dans l'esprit et relâchez-vous. Lâchez-le. Et aussitôt, je fais ce geste-là, mais... aussitôt, ça se relâche. Quoi. Voilà. Si vous faites ça 10 fois, 50 fois, 100 fois par jour, et que vous faites ça tous les jours, mais vous pratiquez vraiment, quoi. Vous pratiquez vraiment. Je vous ai parlé de la Maorienne, hein, qui est décédé il y a un mois.
Oui.
Oui, voilà. Lui, c'est vraiment le plus bel enseignement qu'il nous a donné, c'est de mourir dans cet état méditatif, alors que il a passé sa vie à enseigner, il n'a pas vécu 30 ans dans une grotte au Tibet, mais il s'est entraîné à chaque instant. Il était conscient de ce qui se passait dans son esprit et à chaque instant, il lâchait. Et il s'entraînait à lâcher. Oui ?
Juste une question. Observer sa saisie. Est-ce que c'est observer ses sensations ?
Oui. C'est observer ses sensations, observer ce que fait naître le fait d'avoir cette sensation, qu'est-ce que ça fait naître comme état mental dans votre esprit? C'est être conscient de ça. Et être conscient de ça, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de saisir. Être conscient, ce n'est pas synonyme de la saisie, hein. Être conscient, c'est être lucide. C'est l'aspect connaissance de l'esprit qui est présent, qui est bien développé, quoi. Donc, il faut être conscient. Saisir, c'est s'arrêter dessus, se cramponner à ça. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais être conscient de ça, non. Plus vous serez conscient, mieux ce sera, quoi. Oui ?
J'ai une question par rapport à la saisie d'une douleur physique forte. Mmh. Là, par contre, c'est difficile. Pour moi qui pratique, je n'ai plus de mots. C'est vrai que la respiration aide, mais quand ça devient très important, comment on fait pour ne pas saisir ? Comment on peut avancer, aider son esprit ?
Au niveau de Chiné, c'est l'entraînement à la non-saisie qui vous permettra de lâcher aussi une sensation plus forte, plus douloureuse, etc. Au niveau de l'Aktong, c'est comprendre la nature de cette sensation, d'une part, et puis la nature de la conscience qui fait l'expérience de cette sensation. Ça, c'est ce qu'on appelle le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Voilà. Et ça mettra un terme définitif à la saisie. Mais au niveau de Chiné, c'est vraiment s'entraîner. Et pour pouvoir ne pas saisir dans ce cas-là, il faut s'entraîner à ne pas saisir des futilités. C'est l'entraînement de la non-saisie qui deviendra de plus en plus fort et donc qui nous permettra de ne pas saisir, même alors qu'aujourd'hui on saisit telle ou telle situation.
C'est le même mécanisme que ce soit la saisie pour que par rapport à une
heure. Oui. Et oui. Dans ce cas-là, c'est la version qui naît dans l'esprit. Pas d'attachement, mais c'est la version qui naît dans l'esprit. Alors que dit Rinpoche là-dessus ? Voilà. À chaque fois que nous sommes très attirés par quelque chose que nous trouvons beau ou que nous souffrons à cause de quelque chose qui nous paraît horrible, nous devrions nous efforcer d'examiner ces objets et d'en voir la vraie nature. Ça, c'est l'Aktong. Tout, aussi bon ou mauvais que cela puisse sembler, est en fait vacuité. Alors, comment ça fonctionne, le fait de voir que tel objet est vacuité et que la conscience est vacuité, comment ça fonctionne? Il n'y a pas de miracle. Mais quand vous voyez que les choses sont vacuitées, la saisie, enfin l'esprit ne se fixe plus sur les choses. Donc la non-saisie s'opère, je dirais, naturellement. Donc il faut s'entraîner à voir les choses telles qu'elles sont, comme disait Ajahn Chah. Il n'est rien qui ne soit une chose indivisible, indépendante et permanente. Aussi longtemps que notre compréhension n'est qu'académique, nos problèmes ne se dissoudront pas. Ça, c'est Rinpoche qui dit ça. Alors ça, il faut vraiment se le rappeler. Hein. Tant que c'est ici, il n'y a rien dans nos réactions qui va changer, qui va se modifier. Il faut absolument mettre en pratique, appliquer. Si nous pouvons voir la nature de vacuité plus profondément au niveau de notre cœur, nous ressentirons comment toute chose est en réalité et nous n'aurons plus d'accoutumance. Rinpoche utilise là le terme accoutumance en fait pour cette habitude, cette tendance qu'on a. C'est la seule façon, par exemple, de purifier, ce qu'on appelle de purifier nos accoutumances, nos tendances très fortes, nos tendances émotionnelles par exemple, nos désirs, etc. C'est la seule façon de purifier. On n'est pas dans le... Vous savez, le Theravada, pour le désir sexuel, par exemple, il y a toute une description de technique pour les moines du Theravada, c'est de voir l'objet, entre guillemets, du désir sous différents aspects, des organes, etc. Alors, peut-être, moi je peux vous dire, ça n'a jamais fonctionné. à tête bien reposée, je peux faire mon petit schéma des différents organes, etc. Mais quand j'ai du désir pour quelqu'un, je peux vous dire, oh, alors ça, je peux penser à ça, ça ne m'empêche pas du tout de me faire un petit film, voilà. Par contre, je trouve que de se dire qu'il n'y a rien à saisir parce que je veux, à ce moment-là, on voit, on comprend la vacuité de l'objet saisissable, entre guillemets, et puis surtout de la vacuité de cette conscience qui a tendance à s'agripper, à se porter sur cet objet, là, ça peut couper vraiment le facteur perturbateur. Et c'est ce que dit Rinpoche. Aussi longtemps que notre compréhension n'est qu'académique, nos problèmes ne se dissoudront pas. Et par contre, si nous pouvons voir la nature de vacuité plus profondément au niveau de notre cœur, nous ressentirons comment toute chose est en réalité et nous n'aurons plus d'accoutumance. C'est pour moi la seule façon de purifier nos tendances. Mais faut-il avoir la motivation de les purifier, quoi ? Ça, c'est le problème. Parce qu'il y a des tendances quand même. On les aime bien. Quand même. Hein ? On est habitué. Et oui, on les aime bien. On a peut-être prouvé toute notre existence par le fait de se laisser aller à ces tendances. En fait, la méditation, hein, c'est une déstructuration du fonctionnement de notre esprit. Hein, pour le restructurer d'une façon à ce qu'il se libère. C'est pas vraiment du lavage de cerveau, mais c'est quand même. Oui, c'est un déprogrammage, une déprogrammation et une reprogrammation. Ouais. Mais moi, je pense que pour se déprogrammer, il faut vraiment savoir, vraiment connaître, eh bien, le programme qui existe actuellement et qui nous pose tellement de problèmes. Je pense que si on ne le connaît pas, on applique les instructions par dévotion, par confiance dans les enseignements, confiance dans tel Rinpoche, etc. Mais pas parce que on a expérimenté ce que le Bouddha a expérimenté lorsqu'il a quitté sa famille, c'est qu'il voulait mettre fin à la souffrance. Et en tant que Bodhisattva, et pour le même prix, Michel, vous avez droit à un sauna, il ne faut pas vous plaindre.
J'ai très bien vu, tiens. Vous restez comme ça.
Ça va mieux ?
On n'a pas planté, hein, sur nos affaires.
Et voilà, en plus.
Merci.
Donc pour cela, dit Rinpoche, il nous faut étudier, réfléchir et méditer. L'attachement et l'aversion sont étroitement liés, comme les deux faces d'une même pièce. À chaque fois que nous avons l'une de ces impulsions, nous créons immédiatement son contraire. Ben oui, quand vous avez de l'attachement, vous avez aversion vis-à-vis de la perte de l'objet qui crée l'attachement. Alors, chose importante. Bien sûr, dit Rinpoche, tout le monde a une certaine dose d'attachement. Les problèmes surviennent lorsqu'il devient trop fort. Cela est plus facile à comprendre pour ce qui est de l'aversion. Plus notre aversion sera faible, moins nous aurons de problèmes, et lorsqu'il n'y a pas d'aversion du tout, il n'y a pas d'attachement non plus. Lorsqu'il est dit que nous devrions ne pas avoir d'attachement, il y a une tendance à penser que nous devrions ne rien aimer. Ce n'est pas cela qu'on veut dire, dit Rinpoche. Il dit... Par exemple, si je n'ai d'aversion pour aucun lieu, je peux aimer un lieu en particulier et jouir de mon séjour dans cet endroit. Mais je peux également profiter de mon séjour n'importe où ailleurs. Alors que si je suis fortement attaché à cet endroit en particulier, aucun autre endroit ne sera assez bien et je ne voudrais pas y être. Donc, moins j'aurai d'aversion, plus je serai heureux. Vous savez, cette histoire d'attachement. On est attaché quand même à tout. Moi, je vois par exemple, simplement pour un exemple, je vois mes parents. Ils ont plus de 80 ans. Ils vivent dans une immense baraque avec des escaliers. Ma mère ne peut bientôt plus monter les escaliers. Ça fait des années qu'on leur dit pourquoi vous ne vendez pas cette maison pour vous acheter une maison de plein pied, etc. Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a répondu, mais ici, moi, je vous vois tous, ces enfants. Voilà. Et voilà pourquoi on ne fait pas de modification dans sa maison, voilà pourquoi on ne déménage pas. Ce n'est pas à 86 ans qu'ils vont déménager. Parce qu'à 86 ans, ça devient compliqué de faire des transformations dans la maison, ça devient compliqué de déménager. Mais pourquoi sont-ils restés ? Par attachement. Combien de personnes souffrent de cet attachement ? C'est l'attachement qui conditionne eh bien, notre vie, nos moyens d'existence. On serait quand même plus heureux sans cet attachement. Et le non-attachement, attention, ce n'est pas de l'indifférence. Hein. Ce n'est pas du tout de l'indifférence. Mais Sonny, par pitié, pose ta question demain. Parce qu'il faut l'écoute, la réflexion et la méditation. Donc là, on est dans l'écoute de l'enseignement, la réflexion, ça vient toujours après. Mais il ne faut pas, quand dans l'enseignement, on dit quelque chose, aussitôt, il y ait une réflexion contre. Et ben voilà, maintenant tu sais que tu fonctionnes comme ça, et là il y a peut-être quelque chose à changer. Voilà, et c'est une bonne, c'est une très bonne expérience. Parce que évidemment, ce que tu dis, évidemment, déménager, on rencontre, bon. Mais ça c'est expliquer pourquoi on ne le fait pas. Oui, mais la clé de ça, de pourquoi on ne le fait pas, c'est quand même l'attachement. Et quand on pratique la voie du dharma, on doit travailler sur cet attachement. Alors, il faut réfléchir. À partir de là, on réfléchit et on se trouve des moyens. Mais mes parents souffrent aujourd'hui. Ils souffrent d'être dans cette maison. Ils souffrent à cause de quoi ? À cause de l'attachement pour leur baraque, c'est tout quoi. C'est voyons les choses clairement, c'est ça. Après, on peut rajouter de l'affectif, le sentimental, les explications. La famille était là, c'est la maison de famille. Oui, d'accord. Mais le résultat aujourd'hui, c'est qu'à leur âge, eh bien, ils en souffrent de ça.
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a de la peur ?
Peut-être qu'il y a la peur.
Oui, la peur de l'inconnu, la peur d'autre chose.
Oh.
La peur de perte.
Mais peut-être, mais si vous... La peur de perdre, c'est quoi si ce n'est une autre forme d'attachement ? Enfin, un autre mot pour l'attachement. Si vous avez peur de perdre quelque chose, mais c'est que vous êtes attaché à ce quelque chose.
Qu'est-ce que... Se perdre soi-même.
Ben, c'est que vous êtes attaché à vous-même. Mais oui, mais on peut tourner en rond comme ça jusqu'à 9h ce soir.
Je comprends très bien, papa.
Hein ?
Je comprends très bien, papa.
Mais tout le monde les comprend puisqu'on est tous attachés. Donc, bien sûr, on fonctionne tous comme ça, mais je suis bien d'accord. On fonctionne tous comme ça. Mais simplement, là, on illustre eh bien, que l'attachement eh bien, est cause de souffrance. Voilà, tout simplement. Alors, dit Rinpoche, une fois que nous nous serons libérés nous-mêmes de l'aversion, nous expérimenterons une grande joie qui n'a rien à voir avec un fort attachement. Et là, il parle de l'équanimité. L'équanimité qui s'installe à ce moment-là dans l'esprit. Et il dit la grande équanimité n'est pas indifférence à l'égard des autres ou absence de sentiment. Il s'agit d'être libre de l'attachement et de l'aversion, puisqu'en leur absence, tout devient clair et il n'y a aucun problème. Avec une telle équanimité, nous serons joyeux et compatissants, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'il n'y a pas d'attachement, rien n'est rejeté. L'équanimité est très importante, mais parfois difficile à comprendre, parce qu'on la confond avec l'indifférence. Mais quand il dit qu'avec une telle équanimité, nous serons joyeux et compatissants, quelles que soient les circonstances, c'est exactement ce que l'on peut ressentir quand on est proche d'un Rinpoche. Quand vous êtes proche, par exemple, de Ringu Chulkun Rinpoche, c'est exactement ce que vous ressentez chez lui. Il y a cette équanimité, c'est-à-dire qui se révèle dans le rayonnement de ses qualités, d'amour, d'attention, de compassion, etc. Mais pour tous les êtres. Rinpoche, vous sentez qu'il y a une stabilité dans son esprit et une stabilité dans l'expression de ses qualités, que ce soit pour une personne qu'il considère comme son ami et qu'il revoit, c'est la même qualité d'être, de présence, que pour une personne qu'il voit pour la première fois. Il n'y a pas de différence dans ces deux circonstances. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équanimité. Et l'équanimité, elle ne peut se apparaître et se développer dans l'esprit que lorsqu'il n'y a plus d'aversion ni d'attachement. Il n'y a plus de saisie. Si quelqu'un vous dit qu'il a réalisé l'éveil, déjà par le fait de vous le dire, oui, commencez à avoir des doutes. Mais bref, admettons. Cherchez l'équanimité chez cette personne. C'est ça qui va vous montrer qu'il n'y a plus de saisie. S'il n'est pas équanime, il a de l'attachement, il a de l'aversion, donc il n'a pas réalisé le non-soi de l'individu, le non-soi des phénomènes. Voilà, et le chapitre suivant, eh bien, je le laisse à Orgien. Des questions ? Et puis on passera au refuge.
Moi j'en ai une.
Oui.
Quand on est dans l'aversion,
ouais,
qu'on en prend conscience et qu'on trouve ça bien, par exemple telle personne, je suis là, c'est comme ci ou comme ça, en même temps j'ai vraiment raison parce qu'il a fait ci, ça, ça et ça. Et à ce moment-là, là, on est en quoi ?
Il faut se mettre à sa place. Est-ce que vous aimeriez vivre ce que cette personne est en train de vivre ? Et à ce moment-là, on a une autre perception de cette situation. Vous vous dites vraiment, mais attends, si c'est moi qui, malgré ce que j'ai pu faire, etc., maintenant je suis dans quel... comment je vivrai ça, quoi. La compassion, c'est, je pense, quelque chose qui n'est pas non plus dans la tête, quoi. Se mettre à la place de l'autre, hein, ça aide à la compassion. Sinon, c'est une gentille indifférence ou une indifférence bienveillante. Mais c'est de l'indifférence quand même. Ce qui s'est passé à Londres la nuit dernière, quand vous voyez cette tour, c'est vraiment la tour infernale, hein, quand vous voyez là au milieu de la nuit cette tour en flammes, tous les appartements étaient en flammes, vous dites, mais il y a des personnes là-dedans, mais comment est-ce qu'elles vivent ça, quoi ? Si vous ne vous mettez pas à leur place, et vous n'avez pas vraiment de la compassion, vous avez la pitié, ou vous vous dites, oh, c'est terrible, mais alors, heureusement que c'est pas la tour dans laquelle j'habite qui flambe, quoi. Pour ressentir vraiment de la compassion, il faut se mettre à la place de l'autre. Et même, oui, ça c'est tout le travail de Tonglen. C'est une autre façon en fait d'aborder la pratique de Tonglen, quoi.
Pour l'attachement, comment fait-on vis-à-vis d'un enfant ?
Vis-à-vis ?
D'un enfant, non pas soi par rapport à l'enfant, comment fait-on pour que l'enfant acquiert tout ?
Pour que l'enfant...
L'attachement, le non-attachement.
Pour qu'il développe le non-attachement, l'enfant.
Oui, à partir de quand doit-on travailler sur le non-attachement? Est-ce que c'est pas très jeune? Et comment faire?
C'est peut-être...
Souvent, on est très attaché, on demeure attaché parce qu'on l'a toujours été dès l'enfance.
Oui.
Et conforté par la famille.
Oui.
Alors, soi-même, maintenant, nous sommes adultes, d'accord? Comment fait-on ? Parce qu'il faut commencer très tôt.
Moi, je crois qu'il faut commencer très tôt. C'est pour cela que les Tibétains ont envoyé, en tout cas au moins les petits garçons, mais au monastère. Pour que les enseignements, les valeurs du Dharma, etc., pénètrent l'esprit de ces... de façon très jeune.
Je vois le nombre de petits enfants séparés qui sont très, très heureux, dont les parents sont séparés. Mais ce qui regrette, c'est la maison. Vous avez la maison, vous avez leurs amis, vous avez... Mais comment faire ? Ils souffrent longtemps. Hein.
Mais il faut leur parler de l'impermanence. Il faut leur parler, de leur dire, mais c'est normal que les choses se terminent, voilà. que ça fait partie de la vie, ce n'est pas agréable. Vous savez, il y a, quand on étudie, moi je pense à autre chose, mais dans ma formation que j'avais suivie pour les soins palliatifs, on nous avait dit qu'en Occident, on n'apprend pas à faire le deuil. Pas seulement le deuil d'une personne décédée, mais à un enfant, on ne lui laisse jamais le temps de faire le deuil. Par exemple, lorsqu'il perd son nounours. Alors, on le voit souffrir. Donc, pour qu'il ne souffre plus, on lui dit, mais t'inquiète pas, je vais vite t'en acheter un autre. Et on lui achète un autre. Et toute la vie, en fait, c'est ce que je perds, je le remplace aussitôt. Et quand vous perdez un proche, ben là, vous ne pouvez pas le remplacer. Alors là, c'est le gouffre. Et en Occident, on met des années pour, entre guillemets, faire le deuil, ce que je n'aime pas comme expression, mais on met des années. Il y a des personnes qui ne font jamais le deuil de la personne décédée. Mais aux enfants, on ne leur apprend pas à faire le deuil d'avoir perdu leur nounours, par exemple.
C'est pour ça que je...
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en racheter un, mais pas immédiatement, pas tout de suite, comme quelque chose qui va remplacer immédiatement l'autre. Et on a tendance, je pense, à faire ça parce qu'on n'a pas envie de voir notre gosse en train de pleurer, de souffrir, etc. Mais c'est ça la vie aussi, quoi. C'est expérimenter aussi que, ben, y a des moments, ça, c'est plus difficile que d'autres, quoi.
Et on fait ça aussi avec son petit chien, son petit animal.
Ah, pareil, ça, c'est clair. Petit
chien, on
remplace tout de suite. Ah, ben oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais c'est une tendance hein, qu'on a. Oui, Anna ?
Oui, moi j'ai des doutes par rapport à ma façon de fonctionner quand je garde par exemple ma nièce. Je vais dans un magasin et elle veut absolument quelque chose. Je lui dis que non. Et voilà. Et donc je lui dis accepte le non parce que de toute façon.
Accepte
Le non.
Oui.
Je lui dis sinon tu vas souffrir. Souvent je lui dis ça. Mais j'ai dit. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de dire les choses. Est-ce que le fait d'accepter, de lui dire, d'accepter... Elle comprend parce que, après, je lui explique que si elle n'accepte pas, elle va s'énerver, elle va... Et de toute façon, en définitive, ça sera toujours non.
Oui, si, c'est très bien. Elle a quel âge ?
7 ans. Est-ce que le fait de lui dire d'accepter, est-ce que c'est pas une façon de... Parce que dans la vie, on ne peut pas tout accepter.
Ben, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est très bien de lui dire que ben non, ça ne peut pas être oui tout le temps, que tout ce qu'elle veut, eh ben, ça ne se passe pas comme ça, et que si elle en souffre, eh ben oui, il faut qu'elle apprenne que ben, la vie est désagréable quelquefois, etc. Moi, je repense à Ringo Rinpoche, qui nous avait dit lors d'un enseignement à Strasbourg, à Luz, il parlait d'éducation des enfants qui est ultra permissive, on voit ça dans les trains où ils font ce qu'ils veulent, à la fête du Bouddha, on les voyait courir partout, enfin, bref. Il nous avait dit, en Occident, vous vous préparez, mais ce n'est pas la faute des gamins, c'est la faute des parents. Hein. Mais il nous a dit, vous vous préparez en Occident à faire des générations de monstres d'égoïsme. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Si tout petit, on leur permet tout, etc., mais le jour où dans la société, ils sont confrontés au non, et que ça, alors que ça a toujours été oui, ben, ça devient des... Ils vont vous tuer parce que vous dites non, quoi. Ben, c'est...
Et si le terme accepter le non, c'est ça qui me...
Ben si.
Je peux employer ce terme.
Moi, il me semble. Hein. Il me semble, oui. Il faut qu'elle accepte. Ça ne veut pas dire que vous lui direz toujours non. Mais que, voilà, le non fait partie aussi, eh bien, il n'y a pas que du oui, quoi. Et ça, je pense que, dès le plus jeune âge, il faut leur apprendre ça, quoi. Parce que, il me semble, hein. Enfin bon, j'ai pas de gosse, mais... Ok, on passe au refuge, alors ? Oui ? Alors, il faut venir avec votre coussin ici.
En face ?
Attendez, on va pousser ça. Voilà, installez-vous.
Je me mets en face ou...
Ah oui, en face. Donc, vous savez en quoi vous prenez refuge ? Bouddha, Dharma, Sangha. Voilà. Ensuite, savez-vous pour combien de temps vous prenez refuge ?
c'est l'infini.
C'est jusqu'à l'éveil. C'est pas comme le mariage céleste. Hein, le mariage céleste, c'était pour un an, pour la vie ou éternellement. Le refus, c'est jusqu'à l'éveil. Et donc, ça peut être demain. Hein. Ça, c'est le plus gros obstacle. Et puis, par contre, quels sont les engagements quand on prend refuge? Vous savez ça? Gampopa en est dénommé 9, qu'on réduit à 3. Le premier engagement, c'est de se considérer soi-même comme un refuge pour les êtres, dans la limite de nos possibilités, évidemment. Mais si vous voyez un être, pas seulement un être humain, mais un insecte, etc., qui est dans une position délicate, et que vous pouvez faire quelque chose, non seulement vous pouvez le faire, mais vous devez le faire, en tant que pratiquant du Dharma, et surtout en ayant pris refuge dans le Mahayana. Donc la bodhicitta est complètement liée en fait au refuge. Le deuxième engagement, c'est de maintenir vivant dans notre esprit le sens du refuge. Alors pour cela, traditionnellement, il y a sur la petite carte du refuge une prière de refuge qu'on récite à chaque début d'enseignant, qu'on récite normalement 7 fois. Et il y a une certaine Jacqueline ici présente qui un jour à Strasbourg, face à Ringo Rinpoche, a posé la question suivante. Rinpoche, il y a des jours où je n'ai pas récité ma prière de refuge. Suis-je encore bouddhiste? Vous vous souvenez de ça?
Ah, pas du tout.
Ah, je m'en souviens très bien, vous avez fait rire tout le monde. Et parce que surtout Rinpoche qui a répondu, mais madame, moi je ne sais même plus si je suis bouddhiste parce qu'il m'est arrivé moi aussi de ne pas réciter ma prière de refuge. Vous comprenez, Bernie?
Oui, ok.
Et voilà, il vaut mieux maintenir l'esprit du refuge dans votre esprit que de, en début de journée, vous récitez vite fait 7 fois la prière et puis vous n'y pensez plus dans la journée. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis le troisième engagement, c'est de témoigner du respect envers les 3 joyaux. Donc toute représentation du Bouddha, tout texte du Dharma, que ce soit des traductions, que ce soit tout ce qui parle du Dharma, tout cela, vous allez essayer, éviter de poser ça à même le sol. Parce que pour les Indiens, les Tibétains, le sol, c'est sale, c'est... Voilà. Donc, on va toujours honorer les objets du Dharma en les posant sur des objets plutôt haut placés, pas trop poussiéreux, si on peut. Si on doit se... libéré d'un texte parce qu'il n'est, il est obsolète, par exemple, on le brûle, mais on ne le met jamais à la poubelle. Et puis, on va témoigner du respect aussi envers la Sangha, c'est-à-dire tous nos amis, frères et sœurs de la Sangha, plus particulièrement ce qu'on appelle la noble Sangha, les moines, les nonnes qui consacrent leur vie à la pratique. Voilà, ça c'est les 3 engagements. Ensuite, alors je vous l'ai dit d'abord, parce que dans la tradition tibétaine, on les dit après les engagements. Je trouve que c'est quand même mieux de les dire avant. Donc si vous êtes d'accord avec ça, on peut continuer. Voilà, d'accord. Ensuite, pour montrer symboliquement que c'est vous qui demandez le Dharma, vous allez faire 3 prosternations. Oui, face au Lama. Pas pour honorer le Lama, mais pour lui demander que c'est vous qui décidez d'entrer dans le Dharma. Et ça, c'est important, parce que le prosélytisme n'a pas sa place dans le Dharma, et surtout nous, pour nous qui ne sommes pas d'une famille bouddhiste, eh bien, si vous décidez ce soir de prendre refuge, c'est que vous y avez réfléchi, cela a du sens pour vous, et vous faites la démarche de demander le refuge. Comme toute chose dans le Dharma, on doit le demander. Donc voilà.
Est-ce que je l'ai fait debout?
Oui, normalement, oui. Voilà, vous vous asseyez. Ensuite, vous allez visualiser dans l'espace en face de vous les objets du refuge et autour de vous tous les êtres qui sont témoins en fait de votre refuge, mais c'est en leur nom, pour leur libération, pas seulement pour votre libération, mais pour leur libération, que vous entrez dans la voie du Dharma. Et le texte que vous allez réciter après moi, trois fois, c'est à le sens suivant. Je demande au Bouddha des directions de me prêter attention. Je demande au Lama de me prêter attention. Moi, et vous direz votre prénom, à partir de maintenant, pour le bien de tous les êtres, donc avec la bodhicitta, pour le bien de tous les êtres, jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Voilà.
Faut m'aider, hein, parce que je l'ai pas retenu.
Mais on va faire en tibétain. Donc ça a ce sens-là. Mais donc toutes les personnes qui ont pris refuge, vous pouvez vous associer à Hélène et mentalement, eh bien, réciter le refuge en même temps qu'elle. Donc vous joignez les mains et vous répétez après moi. Chochuna. Shupe. Sangyedan. Jangchub. Sempa. Tamche Dala. Gongsusel. Lopendala. Gongsusel. Da. Votre prénom.
Hélène.
Shekiwe. Kyangtu. Dine Zungte. Jisi. Jangchub. Ningpola. Chike Bardu. Sangyela. Kyapsuchiyo. Dampe Chöla. Kyapsuchiyo. Pape Gendunla. Kyapsuchiyo. Deuxième récitation. Vous affermissez votre bodhicitta. Vous pensez à tous les êtres. Chochuna. Shupe. Sangyedang. Jangchub Sempa. Tamche Dala. Gongsusel. Lopen Dala. Gongsusel. Da. Votre prénom.
Hélène.
Shekiwe. Kyangtu. Dine Zungte. Jisi. Jangchub. Ningpola. Chike Bardu. Sangyela. Kyapsuchiyo. Dampe Chöla. Kyapsuchiyo. Pape Gendunla. Pape Gendunla. Kyapsuchiyo. À la troisième récitation, vous pensez que vous recevez ces vœux de refuge. Chochuna. Shupe. Sangyedang. Jangchub Sempa. Tamche Dala. Gongsusel. Lopen Dala. Gongsusel. Da.
Hélène.
Shekiwe.
Kyangtu.
Dine Zungte. Jisi. Jangchub. Ningpola. Chike Bardu. Sangyela. Kyapsuchiyo. Dampe Chöla. Kyapsuchiyo. Pape Gendunla. Kyapsuchiyo. Je vais vous dire en tibétain, vous avez maintenant les moyens pour réaliser l'éveil. Au moment où je claque des doigts, le refuge que vous avez reçu est scellé dans votre esprit jusqu'à votre éveil et vous direz tout est parfait, c'est-à-dire l'exo. Vous direz l'exo, ce qui veut dire tout est parfait. Tapino.
L'exo.
Voilà. Je vais maintenant faire une petite mèche de cheveux qui symbolise l'offrande que vous faites pour prendre refuge. Vous savez qu'on ne reçoit jamais rien dans le Dharma sans donner quelque chose. Et pour symboliser cette offrande, on coupe une petite mèche de cheveux pour signifier qu'on offre ce qui est le plus supérieur de notre être. Je vais vous dire, êtes-vous heureuse d'entrer en refuge en tibétain ? Vous direz trop là, ce qui veut dire j'entre avec joie. Chesumbojepa, choam.
Trop là.
Et votre prénom de refuge, Karma Organ Wangmo. Karma parce qu'on est dans la lignée Kagyupa, c'est en référence au Karmapa. Normalement, tous nos noms commencent par Karma dans la lignée Kagyupa. Je dis normalement parce que Ringo Rinpoche, il ne donne plus Karma, il écrit comme ça de nom, voilà. Mais, Organ, ce n'est pas de Masambhava. Organ, celui qui est en photo là. celui qui a introduit le bouddhisme au Tibet. Et Wangmo, c'est celle qui est puissante. Je ne sais pas pourquoi je fais ce geste, mais...
C'est délicat.
Voilà. Voilà,
Hélène.
Et puis, bienvenue au club. C'est ça. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Je vous donne un cordon de refuge de la part de... qui est béni par le 17e Karmapa. Donc, il y a un petit nœud au centre. Surtout, vous ne le défaites pas. C'est fait exprès. Voilà. Vous le portez au poignet ou autour du cou, comme vous préférez. Au poignet. Comme vous voulez. On fait sur les deux, si vous voulez.
Ça s'appelle les menottes.
Pas détachement.
Voilà, et sachez encore une chose. Sachez encore une chose, que tout ce que vous saurez dans le Dharma, c'est ce que vous demanderez. Dans le Dharma, il faut demander des instructions, il faut demander à recevoir le Dharma, il faut aller chercher le Dharma, il faut... Voilà. Vous êtes responsable, vous, seul, de votre cheminement spirituel. C'est important parce qu'en Occident, on a souvent une autre façon de voir les choses. Le lama a besoin de savoir que l'instruction que vous demandez, elle est importante pour vous. Vous en avez vraiment besoin. Donc il se peut que vous demandez une instruction à un lama et que le lama vous dise « Oh, on verra ça plus tard. » Il ne faut pas attendre qu'il revienne, lui, en vous disant « Mais il y a 15 jours, vous m'avez demandé une question, est-ce que vous voulez l'instruction, etc. » C'est fait exprès. Il faut que vous reveniez à la charge. Quand vous aurez demandé 3 fois, le lama est obligé de vous donner l'instruction. Mais il a besoin de savoir que c'est quelque chose d'important pour vous et que ce n'est pas juste une lubie. Voilà, c'est juste à savoir, parce qu'en Occident, on demande une fois, il nous dit ça, on se dit « Ah bon, je ne veux pas le déranger, c'est à lui de venir me voir. » Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, merci.
Merci beaucoup.
Merci. Et puis on va faire la dédicace, merci. Et puis on pourra passer aux agapes. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Et moi, je voudrais vous dire que depuis quoi? Ça fait combien de temps? 22 ans?
Oui,
depuis 22 ans.
Depuis 1994.
14. Donc 23 ans que je vais à Meudon et je n'ai jamais regretté de venir à Meudon. Ça, je peux vous le dire. Mais vraiment, je voudrais remercier Jacqueline, parce que c'est Jacqueline qui est à l'origine du Tchuling. Je fais vraiment le souhait que d'abord on se revoie, et puis ensuite que voilà, toute la pratique du Dharma devienne quelque chose d'essentiel pour votre vie. Ça ne veut pas dire que pour cela il faut quitter votre famille, quitter votre travail, etc. Mais intégrer le Dharma dans votre vie quotidienne et que ce soit toujours présent, quoi. Et que ça devienne le guide de vos choix, le guide de votre vie. Faites vos choix en fonction du Dharma, quoi. De façon à ce que vous puissiez vous dire au moment de votre mort, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je n'ai pas de regrets. C'est ce que a dit Milarepa quand il allait mourir. Ne pas avoir de regrets. Et je crois que quand on peut partir en se disant je n'ai pas de regrets, je crois que là, on peut être satisfait de sa vie, quoi. Voilà. Merci encore à tous.
Merci à vous.